Secret d'État, chapitre 17. Tolberg entra, presque sans frapper. Il était affairé, plutôt que soucieux. Il s'assit près de mon bureau, me tendit la main et me dit sans préambule « J'ai quelque chose de très grave à vous confier. Les événements ont marché depuis que nous nous sommes vus. L'attentat contre... est décidé. C'est aujourd'hui, ce soir, qu'il doit se produire. » Nous avons pensé qu'il fallait profiter de la présence des réfugiés russes à Schönbourg pour exécuter ce que nous avons projeté. On mettra cette histoire sur leur compte, et les gens du complot ne seront pas inquiétés. Cette combinaison manque un peu d'élégance. Elle n'en a pas moins été adoptée par nos conjurés, qui ne sont pas tous courageux. Il se peut très bien que je sois désigné pour lancer la bombe. Le tirage au sort a lieu tout à l'heure, et nous ne sommes que 6 qui tirons. Il s'agit de savoir qui se postera sur la route de Berne. C'est là que le ministre passera vers 7 heures. Dans l'hypothèse où ce serait moi qui serais désigné, j'ai voulu vous prévenir et vous remettre cette lettre fermée où vous verrez quelques instructions.
« Ainsi, c'est donc vrai ?» lui dis-je. « Ces résolutions barbares auxquelles vous ne pouviez croire ?»
J'y crois encore à peine maintenant. Pourtant, j'ai pas mal de chance d'être choisi. Un numéro sur 6. Aux petits chevaux, où j'ai souvent joué, j'avais une chance sur 9 de gagner en misant sur les numéros pleins. Et il m'est arrivé 4 ou 5 fois de gagner du premier coup en entrant dans la salle de jeu. Ici, mes chances sont encore plus fortes. Une chance sur 6 d'être chargé de tuer quelqu'un. Et pourtant, je n'y crois toujours pas. C'est par un effort de raison que j'ai pris ces quelques dispositions que je suis venu vous communiquer. S'il m'arrive malheur, je vous prie d'ouvrir cette lettre. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de rire en vous disant ces choses graves, et dont la solennité, malgré moi, me paraît absurde et enfantine.
Et à quelle heure saurez-vous si vous êtes désigné ?
Tout de suite. Mais vous avez l'air, vous, de croire que c'est arrivé.
Prévenez-moi aussitôt que vous le saurez, pour que je sache à quoi m'en tenir. Je rirai plus volontiers avec vous si vous n'êtes plus en jeu.
Une fois que je ne serai plus en jeu, dit Tolberg, je serai plus sérieux. Car, au fond, que ce soit moi ou un autre qui agisse à ce moment, l'assassinat sera en train. Quelque noble nom qu'on donne à de tels actes, il s'agit d'un assassinat. Et c'est ce qui fait que j'ai tout de même une petite peur d'être choisi. N'y pensons pas, et allons tirer au sort. Le baron de Herner ne devait pas venir ce matin-là. Il y avait conseil de cabinet, et les ministres s'étaient réunis chez von Mühlen, qui souffrait d'une attaque de goutte. Je pus donc sortir de mon bureau avec Tolberg et traverser la cour avec lui. Je l'accompagnai jusqu'à la porte d'entrée et je lui fis promettre de venir me prévenir tout de suite, aussitôt qu'il saurait à quoi s'en tenir. Puis je remontai dans ma chambre pour mettre en lieu sûr, dans un petit coffret que j'avais, le pli que le jeune comte m'avait confié. Je déjeunai ce jour-là à la terrasse de la grande taverne. Il fut convenu que Tolberg, dès qu'il aurait du nouveau, viendrait me le dire en passant. J'étais installé devant ma table depuis un quart d'heure, et mon déjeuner tirait à sa fin, quand j'aperçus la tête fine et blonde de mon ami. Il fut quelque temps sans me voir, et il me sembla tout de suite, d'après son air, qu'il n'avait rien à m'annoncer de ce que je craignais. Pourtant, je pouvais me tromper. Et précisément cet air-là... À ce moment, ses yeux rencontrèrent les miens, et il me fit tout de suite de la tête un petit... Non, rassurant. Puis il vint jusqu'à ma table. Je n'avais pas de voisin immédiat et il n'était pas obligé de me parler tout bas.
Eh bien voilà, ce n'est pas moi, et je n'en suis pas fâché. J'ai eu une petite émotion quand on a mis la main dans le chapeau pour tirer le nom, mais je n'étais pas le plus ému. Il me restait assez de sang-froid pour regarder les autres. À part un préparateur de chimie qui a fabriqué l'engin et qui est une espèce d'illuminé, mes compagnons montraient des pâleurs impressionnantes ou des sourires forcés qui n'étaient pas beaux à voir.
Celui dont le nom a été tiré était précisément un de ceux qui souriaient ainsi. Quand on a dit son nom, il nous a regardés d'un air égaré, en souriant davantage. Je ne crois pas que l'engin soit en de bonnes mains. Sur ces 6 hommes, il y en avait au moins 3 qui n'étaient pas courageux, et qui sont venus là avec une confiance de joueurs, en comptant que le sort ne les désignerait pas.
Dans ces conditions, dis-je à Tolberg, je puis vous rendre le pli que vous m'avez confié, mais je l'ai mis dans ma chambre en lieu sûr, j'irai vous le rapporter cet après-midi.
Non, dit Tolberg, gardez-le, toutes ces histoires-là ne sont pas finies, le coup d'aujourd'hui manquera peut-être, et je peux être désigné demain pour une autre affaire. Si je suis désigné à l'improviste, je pourrais très bien n'avoir pas le temps nécessaire pour vous porter ça, et je suis plus tranquille de le savoir ainsi entre vos mains. Sur ce, je vais aller faire une surprise à mon amie qui ne m'attendait pas à déjeuner. Bien entendu, elle ne savait rien de tout ce qui se passait ce matin, et comme je ne suis pas très sûr de mon courage, j'avais prévu l'éventualité où je serais désigné, et je ne voulais pas être obligé d'aller déjeuner avec elle avec ce petit secret sur le cœur. Nous nous serrâmes la main. Je terminai rapidement mon déjeuner et je rentrai au palais où m'attendait mon travail d'analyse que la visite de Tolberg m'avait empêché de finir le matin. En rentrant, je trouvai sur la table un mot du Premier ministre. Il avait reçu des nouvelles de France au sujet de la petite affaire coloniale qui divisait le Bergensland et le gouvernement français. Il y avait une réponse à préparer, et le ministre me recommandait de l'attendre au palais dans l'après-midi. Alors je pensais à ce que m'avait appris Tolberg. Jusqu'à ce moment, je n'avais été préoccupé que du sort de mon ami. Maintenant que le tirage au sort l'avait mis hors d'affaire, je pensais tout à coup que la vie de Werner était menacée, que je le savais, que j'allais passer l'après-midi avec cet homme, et que je ne lui dirais rien. Je n'avais pas le droit de parler. La confiance de Tolberg m'avait mis en possession de ce secret. Il fallait le garder, pour moi, comme un confesseur. Et d'autre part, c'était un peu ma faute si Tolberg avait eu la légèreté de me le confier. Je ne lui avais jamais dit exactement quels étaient mes rapports avec le ministre. Je lui avais toujours parlé en termes défavorables de son ennemi. Ce n'était pas par duplicité, mais vraiment, quand je me trouvais avec Tolberg et Bertha, je pensais toujours, et de très bonne foi, beaucoup de mal de Werner. Après tout, mon devoir était bien simple et ne souffrait pas la discussion. Il m'était interdit de parler. Je n'avais rien entendu, je ne savais rien. C'était une dure épreuve à passer, mais il fallait la subir. Si je parlais, Tolberg avait, de mon fait, les torts les plus graves envers son parti. En se confiant à moi, il avait commis une imprudence qui était presque une trahison. Cette imprudence, c'est moi qui l'avais provoquée. Mon ami, à mes yeux, pour moi qui savais bien ce qui s'était passé, n'avait eu d'autre tort que d'avoir en moi une confiance excessive. Est-ce que je pouvais trahir cette confiance? Quand Werner arriva, la paix s'était faite en moi. Je n'avais plus aucune hésitation sur la conduite à tenir. Un événement fortuit m'avait mis en possession d'un secret que, sous aucun prétexte, je n'avais le droit de livrer. De même, quelque temps auparavant, le ministre lui-même m'avait confié un secret très grave, et je savais bien que ce secret était en sûreté absolue. Tant pis pour cet homme, après tout. C'était dans la vie un terrible joueur. Il faisait des coups audacieux. Il avait une politique dangereuse dont il subissait tous les risques. Et puis, toutes ces affaires-là ne me regardaient pas. J'étais un étranger. Je n'avais qu'à laisser ces gens s'égorger entre eux et à ne pas m'en mêler. Werner était assis à son bureau. Il m'avait dit « Je vais, au sujet de cette réponse, jeter sur le papier quelques idées qui me sont venues en route. Nous reprendrons cela ensemble. » Et nous verrons s'il y a quelque chose à en tirer. » Je le regardais écrire. Je pensais qu'il allait mourir, que je le savais, et que je ne ferais rien pour empêcher cela. Jamais il ne m'avait paru si intelligent, si brillamment doué que ce jour-là.
Il s'arrêtait par moments d'écrire et regardait fixement devant lui. Et je sentais en lui une puissance exceptionnelle de réflexion. Il donnait l'impression d'une vitalité d'esprit intense, et je pensais « Tout cela va s'arrêter, va être détruit. Cette chose mystérieuse, la vie humaine, qui vient d'on ne sait où, nous allons la supprimer, et en faire nous ne savons quoi. » Je me dis avec beaucoup de force « Cet homme de valeur est un homme malfaisant, il gêne d'autres êtres, il fera périr d'autres êtres. C'est lui qui a tué le soldat Hassen, en somme, puisque le roi voulait le gracier, et que lui, Erner, n'a pas voulu. Mais ce soldat Hassen, il ne le connaissait pas, il n'avait contre lui aucune haine personnelle. S'il l'a tué, c'est qu'il pensait que sa mort était nécessaire. » Moi, je pense que l'on n'a pas le droit de tuer, pour quelque raison que ce soit. Oui, mais si l'on n'a pas le droit de tuer le soldat Hassen, on n'a pas non plus le droit de tuer le ministre Erner. Le ministre Erner, qui est un homme dont je connais la haute valeur, a pris sur lui de laisser tuer le soldat Hassen et je l'ai désapprouvé. Aujourd'hui, c'est moi qui vais laisser tuer le ministre Erner. Et par qui est-il condamné? Par une bande de mécontents. Par ce faible et charmant Tolberg qui s'est laissé entraîner dans cette affaire. Et qui d'ailleurs poursuit la ruine du ministre pour la satisfaction d'intérêts privés. Erner est condamné par ce gros professeur de stratégie, cette solennelle nullité que son ambition déçue et sa haine personnelle du ministre de Fritz ont amené à conspirer. Et je pensais à ces hommes, tremblants et lâches, qui tiraient au sort dans un chapeau. C'était de ces gens-là que j'étais le complice, puisque je laissais leur crime s'accomplir. Mais je pensais aussi à ce chimiste ardent dont m'avait parlé Tolberg. Celui-là n'était pas poussé par un bas intérêt, et il y avait sans doute encore dans le parti d'autres hommes honnêtes et réfléchis qui avaient jugé, dans leur conscience, que la mort de ce ministre autoritaire était utile à l'État et à l'humanité, que cette mort servirait d'exemple à d'autres despotes, et que, grâce à ce sacrifice humain, nécessaire, on éviterait à beaucoup d'autres malheureux le sort du soldat Hassen. En somme, ce n'était pas seulement quelques mécontents médiocres que je trahirais, c'était ces citoyens libertaires qui, pour des raisons que je ne connaissais pas et que je n'avais pas à connaître, avait décidé la mort du ministre Erner. Je ne pouvais pas trahir ces gens-là. Je ne pouvais pas trahir mon ami Tolberg. Ces raisonnements me semblaient irréfutables. Cependant, quand le ministre se leva et me dit « Je vois que cette réponse est plus difficile que je ne pensais. Nous l'écrirons demain. Il se fait tard, et il faut que j'aille dîner à la campagne, chez ma mère. » Quand il se dirigea vers la porte, je me levai aussi, déterminé à sauver cet homme, en dépit de tous les raisonnements et de tous les devoirs, simplement parce que j'avais sa vie entre les mains, et que je ne voulais pas le laisser mourir. Chapitre 18. Il fallait empêcher Erner de s'en aller sur cette route où l'attendait l'assassin. Mais quel moyen employer? Je ne savais qu'inventer, et le temps pressait. La voiture du ministre était dans la cour. Allons, allons, il n'y avait pas à chercher de petites ruses, à lui demander, par exemple, de prendre un autre chemin pour me conduire à tel endroit où, soi-disant, j'étais obligé d'aller. Je ne connaissais pas assez la topographie du pays pour trouver sur le champ ce prétexte, d'ailleurs bien misérable. Et puis, à supposer que le ministre évitât la mort à l'aller, il était probable que l'homme embusqué l'attendrait au retour. Ou bien le coup recommencerait le lendemain. Non, puisque j'avais décidé de le sauver, il fallait le sauver tout à fait. Pourquoi avais-je trahi les conjurés? Car en somme, je les trahissais. Était-ce pour m'épargner un moment douloureux? Non, c'était pour sauver la vie d'un homme. Je me répétais donc qu'il fallait le sauver tout à fait. Je descendais l'escalier avec lui, affolé de ne rien trouver pour le retenir. C'est ce désarroi qui me fit brusquer les choses et m'amena à en dire plus que je n'aurais voulu. Comme il arrivait dans le vestibule d'entrée, je lui touchai le bras. « Monsieur le ministre !» Il s'arrêta, étonné. « Monsieur le ministre, j'ai besoin de vous parler. Dans une circonstance que je n'ai pas besoin de rappeler, vous avez fait appel à ma discrétion, qui d'ailleurs vous était due et acquise, m'empressai-je de dire. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très grave. Je sais que votre vie est en danger. Je vous prie de ne pas chercher à savoir comment je le sais. » Il m'avait écouté avec ce visage hautain de ces hommes autoritaires qui veulent bien, de leur plein gré, vous parler comme à un égal et vous demander des services, mais voient avec humeur qu'on leur rende un service qu'ils n'ont pas demandé. « Il ne faut pas que vous alliez ce soir où vous comptiez aller. C'est tout ce que je puis vous dire. »« Alors, vous me défendez de vous interroger. Vous oubliez qu'un complot dirigé contre moi intéresse la sûreté de l'État et que j'ai le devoir de me renseigner. » Il avait dit ces quelques mots avec cet air mauvais qu'il avait quelquefois et qui m'éloignait tant de lui. « Au fait, reprit-il, si vous ne voulez pas parler, c'est votre affaire. » « Et je vous remercie, » ajouta-t-il comme avec un effort. « Je vous remercie, » répéta-t-il encore en me serrant la main. Rien au monde ne donnerait à nos relations cette cordialité naturelle qui leur avait toujours manqué. Mais cela, je le savais déjà, je ne m'attendais à rien d'autre. Et je n'avais jamais songé à gagner le cœur étranger de Herner. S'il y eut une surprise pour moi, ce fut au contraire de trouver chez lui des marques de gratitude plus répétées que je n'aurais cru. Et je dois dire même que j'en fus un peu inquiet, d'autant qu'il ne me dit rien des mesures qu'il comptait prendre pour assurer sa sécurité. Il m'était venu le soupçon terrible qu'il connaissait mes relations avec Tolberg et qu'il pouvait deviner que mon ami était du complot. Il quitta le palais l'instant d'après, et me laissa en proie à l'inquiétude et à un remords grandissant. J'évitais ce soir-là de sortir du palais et d'aller dîner au restaurant. J'aurais pu rencontrer Tolberg, et je ne me sentais pas le courage d'affronter sa vue. J'aime beaucoup les gens qui disent « Il faut avoir le courage de ses actes et en accepter la responsabilité. » Je n'ai pas autant de confiance en moi. Et je n'ai pas, comme ces gens, la hardiesse de penser que le parti que j'ai choisi est nécessairement le seul auquel il fallait s'arrêter. Je dînai donc à la table de l'intendant. Mais ce soir-là, les convives ne m'égayèrent pas. Quand le dîner fut terminé, j'eus hâte de m'en aller dans la ville, pour apprendre quelque chose. Au palais, au siège du gouvernement, on ne savait rien de rien. Les fonctionnaires royaux vivaient à 1000 lieues de la ville et à 1000 ans en deçà de leur époque. Je me promenais dans cette rue de la paix que j'avais foulée quelque temps auparavant avec tant d'indépendance et de tranquillité. Et dans quels événements n'avais-je pas été jeté? J'étais comme un promeneur innocent et rêveur que le hasard conduit au milieu d'un terrible jeu de quilles. Dans la rue de la paix, qui est comme le boulevard de Schönberg, c'était, ainsi que tous les soirs, une animation tranquille. Les crieurs vendaient des journaux du soir, mais ces journaux n'annonçaient rien. Ils ne pouvaient rien annoncer encore. Peut-être, si j'avais pu aller dans un bureau de rédaction, eussé-je appris quelques nouvelles. Mais à part un courriériste de théâtre, vaguement critique, que j'avais rencontré au café, je ne connaissais personne dans les journaux. J'eus un moment l'idée d'aller chercher le courriériste au bureau de son journal, la presse de Schönberg, afin de tâcher d'entendre là, sans avoir l'air de rien, si on ne parlait pas d'un complot éventé, de mesures de police. Une timidité m'arrêta. Il y avait bien au palais un employé chargé des rapports avec la presse, mais je le connaissais très peu. Je savais d'ailleurs que toutes les communications sérieuses étaient faites directement par Herner, et que cet employé était un homme sans importance et qu'il n'avait que le titre de ses fonctions. Décidément, je n'apprendrai rien avant le lendemain. J'étais partagée entre l'idée de rentrer immédiatement, de tâcher de m'endormir le plus tôt possible pour que cette nuit fût plus vite finie, et le besoin de ne pas me retrouver seule, de rester longtemps dans cette ouïe étourdissante, où pourtant je n'évitais rien des obsédantes idées qui venaient me hanter tour à tour. Je pensais constamment à Tolberg, dont j'avais, dans une circonstance si grave, trompé la confiance. Je pensais à ces conjurés qui avaient patiemment préparé cette œuvre essentielle, pour laquelle ils risquaient leur vie, et je voyais surtout, comme en un rêve de malade, cette tête ardente de chimiste que m'avait décrite Tolberg, cette tête d'apôtre passionné. Je l'avais trahi, lui et les autres, et je me disais que si j'avais sauvé le ministre, c'était par faiblesse. Mais ce qui me calmait un peu, c'est que je sentais bien que cet acte de faiblesse, je le recommencerais encore, je le recommencerais toujours. Cependant, ma trahison n'allait-elle pas les atteindre d'une façon plus grave? Peut-être avais-je commis un autre crime que de leur dérober leur victime. Peut-être... Certainement, le ministre allait chercher à les atteindre. Mais oui, il ne pouvait pas faire autrement. C'était une folie de penser qu'il s'en tiendrait là, et que, mis en éveil, il n'allait pas, pour la sûreté de l'État, pour sa sûreté personnelle, faire disparaître ce danger permanent en mettant la main sur les coupables. Il n'avait pas, comme moi, des raisons pour les ménager. Je me figurais sans doute que, pour me faire plaisir, pour ne pas troubler mes relations avec mes amis, il allait se priver de prendre, contre les conjurés, les mesures nécessaires. Voilà pourtant ce qu'oublient toujours les gens à qui l'on confie un secret. Ils le répètent à une autre personne, qui a encore moins de raisons qu'eux-mêmes d'être discrets. À mesure qu'un secret s'éloigne de son origine, les raisons de ne pas le trahir s'affaiblissent. J'étais malheureux de ne rien savoir, de n'être pas fixé sur la portée de mon acte. J'étais comme un chasseur qui a tiré dans la nuit, qui a cru entendre un cri humain et qui doit attendre jusqu'au jour pour savoir s'il n'a pas blessé ou tué quelqu'un. Déjà, dans la rue de la Paix, les passants se faisaient plus rares. Encore une heure, et j'allais sentir la solitude autour de moi. Je me dirigeai vers le palais. Lorsque quelqu'un me toucha le bras, je me retournai brusquement. J'étais un peu troublée, et je ne reconnus pas tout de suite le lieutenant, neveu de Herner, avec qui j'avais dîné chez le premier ministre. Il revenait de permission. Il était allé passer quelques jours avec sa mère, et c'était, disait-il, tellement ennuyé à la campagne qu'il revenait avant l'expiration de sa permission. Il avait hâte de reprendre pied à Schönbourg, où sa vie désœuvrée le réclamait. « Mon cher, la campagne !» me dit-il avec son accent extraordinaire. « Vraiment, vous ne pouvez pas vous figurer. C'est la mort !» Il m'emmena dans un restaurant de nuit, et je me laissai entraîner. Il arrivait vraiment au bon moment. Je crois que, cette nuit-là, j'étais disposée à lasser son noctambulisme et à écouter ses propos oiseux jusqu'au jour. « Vous savez, mon cher, cette petite chanteuse qui était à l'Alhambra avant mon départ. Ah non, c'est vrai, vous ne l'avez pas connue. Ce n'était pas avec vous. Elle chante !» Il fit une moue dédaigneuse. « La figure !» Autre moue méprisante. « Mais enfin !» Geste d'acquiescement résigné. « C'est suffisant. Ici, mon cher, nous ne sommes pas gâtés. Je pensais qu'elle avait dû quitter la ville, et je l'ai justement rencontrée en descendant de la gare. Malheureusement, je n'avais pas la veine. Elle doit souper ce soir avec des camarades. Mais je crois que peut-être elle sera chez elle vers 1 heure du matin, et que l'on pourra prendre une tasse de thé. Mon cher, « pourquoi vous ne prenez pas de ce roast beef ?»« Je vous assure, c'est vraiment très convenable. C'est meilleur que chez mon oncle. » Ajouta-t-il en riant d'un gros rire. « Mais à propos de mon oncle ?» Il changea de ton, il prit un air intéressé qui fixa tout de suite mon attention et me donna comme un petit frisson. « À propos de mon oncle, vous ne me parlez pas des nouvelles de ce soir. Il paraît que cet oncle vient d'échapper à un grand danger. J'ai vu tout à l'heure l'officier qui est de garde à la prison militaire. On a arrêté ce soir un des conspirateurs qui se trouvait porteur d'un engin. Oui, on l'a trouvé sur la route de Bouerne, que suivait tous les soirs mon oncle pour aller voir la vieille grand-tante. Mais ce conspirateur, vous ne devinerez jamais qui c'est. C'est une connaissance à moi, mon cher. Un garçon charmant, un de nos attachés à l'ambassade de Paris. Et parbleu, je crois que vous le connaissez aussi. C'est le comte de Tolberg. »
Chapitre 19. Quand j'essaie de me rendre compte à distance de l'impression que firent ces paroles, je crois me souvenir que j'avais la tête comme vide, et que ces mots, le comte de Tolberg, résonnèrent en moi sans que je pusse en saisir le sens. Je restais là, les yeux perdus et sans pensée, avec l'impression vague qu'il était arrivé un grand malheur.
« Qu'est-ce qui aurait pu se douter de cela ? » répétait l'officier. On disait qu'il y avait entre les deux une rivalité de femmes. Mais ce petit Tolberg est fou de s'en aller faire des choses pareilles. Sans compter que l'oncle n'est pas commode. Une histoire comme cela avec l'oncle, mais on y laisse sûrement sa tête.
Comment ? Par quelle monstrueuse combinaison du hasard était-ce Tolberg qui s'était trouvé sur la route de Bouerne et non l'homme que le matin le sort avait désigné ? Tolberg m'avait-il menti ? Était-ce lui dont le nom était sorti du chapeau ? Me l'avait-il caché pour ne pas m'alarmer ou pour m'empêcher de le détourner de son projet ?
Mais non, ce n'était pas lui. Je revoyais très bien sa figure du matin. Ce n'était pas celle d'un homme qui ment.
Vous savez qu'il faut nous dépêcher si nous ne voulons pas arriver trop tard chez la petite. J'étais sur le point de m'excuser, de prétexter une fatigue subite, car j'avais besoin maintenant de me retrouver seule. Mais le lieutenant insista tellement que je l'accompagnais, peut-être parce que je craignais qu'il ne devinât mes terribles soucis. Et je me disais aussi, depuis un instant, que le lendemain il faudrait aller en personne, coûte que coûte, voir Tolberg. Le lieutenant ne venait-il pas de me dire qu'il connaissait l'officier de garde ? C'était sans doute un moyen d'avoir un accès auprès du prisonnier. Je tenais à voir Tolberg, parce que je voulais tout lui dire. Il fallait qu'il sût de moi-même que c'était par ma faute qu'il avait été arrêté. Ce n'était pas seulement chez moi un besoin éperdu de franchise. Il ne fallait pas qu'un autre que moi lui révélât qui l'avait trahi. D'autant que moi, je pourrais plaider ma cause. Certes, j'étais un grand coupable, mais j'avais des circonstances atténuantes. Je n'avais pas trahi pour trahir ou parce que j'y avais un intérêt. Il fallait que Tolberg se rendît compte de tout cela, au moment même où il serait mis au courant de ma trahison. Car ces circonstances atténuantes, Tolberg ne pouvait les imaginer lui-même. On n'excuse un ami que si on a confiance en lui. Or, le fait de ma trahison devait lui faire perdre toute espèce de confiance. Voilà ce que je me disais pendant que l'officier égayait notre route par toutes sortes de facéties, telles que de racler violemment avec son sabre les devantures des boutiques ou de lancer des pierres dans les vitres des réverbères. Il accomplissait comme des rites ces plaisanteries consacrées. Il sonna au passage à quelques portes, mais comme j'étais trop absorbée pour faire du succès à ces petites manifestations, il y renonça et marcha sagement à mes côtés, en chantant toutefois un air en vogue pour entretenir sa gaieté et ne pas la laisser s'éteindre. Nous avions pris quelques rues étroites du vieux Schönburg et nous arrivions sur la place où était l'Alhambra. Elle était, cette petite place, toute changée, méconnaissable, maintenant que se trouvaient éteintes les brillantes girandoles du café-concert. Les petites maisons voisines reprenaient leur âge et leur aspect modeste.
« C'est par ici, dans la seconde rue, » me dit l'officier. « Vous voyez son nom sur l'affiche ?»
À côté de l'affiche du concert, se trouvaient les affiches particulières des différentes attractions. La chanteuse en question s'intitulait « Mamselle Jeanne ». Elle chantait en français, en allemand et en anglais. Cette promenade nocturne vers des logis inconnus ressemblait à un rêve. Je ne pensais plus à rien. Je suivais l'officier. Il frappait maintenant à des volets. Je ne m'étais pas arrêtée, croyant à une nouvelle farce. Mais il paraît que nous étions arrivés. Au bout d'un instant, une porte s'ouvrit et la chanteuse elle-même nous fit entrer. Elle avait gardé sa jupe courte qu'elle mettait pour chanter ses chansons polyglottes et danser des danses de différents pays. Il n'était pas aisé de dire à quelle nationalité elle pouvait appartenir. Et son âge, la couleur de ses cheveux, étaient également assez difficiles à déterminer. Elle ne connaissait de la langue française que les paroles de ses chansons. Et je vis, d'après différents essais de conversation qu'elle tenta avec le lieutenant, qu'elle parlait très mal l'allemand et l'anglais. Elle finit par nous dire qu'elle était de New York. Mais nous sentîmes que ce n'était pas absolument irrévocable. Elle avait préparé du thé, mais elle n'avait que deux tasses, et l'officier eut la faveur de boire dans la même tasse qu'elle. Je m'en consolais en pensant que ma tasse ne servirait qu'à moi. Mlle Jeanne était venue s'asseoir sur les genoux de mon compagnon, qui riait d'un gros rire embarrassé, et la baisait sur ses cheveux blonds ou roux, de provenance incertaine. Au bout d'un instant, il voulut par politesse qu'elle vînt s'asseoir aussi sur moi, et je dus m'appliquer à ne pas donner trop d'énergie à mon geste de dénégation. Je ne sais pas ce que cet officier, dans son fort intérieur, pensait de Mlle Jeanne, mais il sentait bien qu'elle ne me plaisait pas outre mesure, et son impression personnelle en fut influencée. 5 minutes se passèrent dans le silence et dans l'indécision pour savoir dans quelle langue on allait prendre congé. Quand nous sortîmes de là, le lieutenant commença à se moquer de cette chanteuse. Ce qui me déplut un peu, bien qu'à ce moment je fusse assez loin de ce qu'il me disait. Il semblait qu'il voulût rompre toute attache avec cette femme et ne pas garder vis-à-vis d'un Parisien la responsabilité d'une telle présentation. Quand il m'eut reconduit jusqu'à ma porte, il ne me quitta pas avant que nous ayons pris jour pour souper avec des amis à lui. Je compris qu'il allait remuer ciel et terre pour m'amener 2 jolies personnes afin d'effacer de mon esprit la fâcheuse impression qui avait laissé sans doute cette chanteuse de l'Alhambra. En traversant la cour du palais, je pensais à ce que serait ma journée du lendemain. Mais j'étais un peu soulagée par la résolution que j'avais prise d'aller trouver Tolberg et de lui raconter tout ce qui s'était passé. Je pensais avec plus d'appréhension à ce qu'il faudrait dire à Bertha. Si Tolberg était homme à me pardonner, malgré la faute que j'avais commise, je savais bien qu'il n'y avait aucune miséricorde à attendre de la jeune femme. J'avais perdu son amant. J'étais un être exécrable, que rien à ses yeux ne pourrait absoudre. Soudain, je pensais au pli que Tolberg m'avait confié. Étais-je encore qualifié pour en prendre connaissance? À qui pourrais-je rendre ce dépôt? Pourrais-je le faire parvenir à Tolberg? Il ne m'avait pas autorisé à le remettre à Bertha. Le mieux était d'attendre d'avoir vu le prisonnier et de lui demander à lui-même ce qu'il fallait faire de cette lettre. Oui, mais le jeune homme n'avait-il pas spécifié que je devais ouvrir l'enveloppe s'il lui arrivait malheur ce soir-là? Ces instructions concernaient peut-être des mesures à prendre sans retard. Il me semblait que j'obéissais mieux à la volonté de mon ami, en m'assurant dès le soir même de ce que pouvait contenir cette enveloppe. Je ne veux pas, par sévérité, chercher à ma conduite des motifs trop bas, mais je crois bien que dans cette lutte d'arguments, ma curiosité intervint discrètement et, sans avoir l'air, fit pencher la balance. Aussitôt que j'eus décidé d'ouvrir la lettre, je montai à ma chambre avec une certaine hâte. Je me dépêchai, une fois entré, d'allumer ma bougie et j'allai jusqu'à mon armoire où j'avais enfermé mon coffret. J'eus une commotion de surprise. L'armoire avait été ouverte. Le petit coffret avait été brisé. La lettre de Tolberg ne s'y trouvait plus.
Chapitre 20. Vraiment, on n'avait pas idée d'une pareille audace. Et il n'y avait pas de doute possible. Erner et sa police avaient passé par là. Je demeurai d'abord comme accablé. Puis je me calmai au bout d'un moment. Le ministre, par cet acte d'hostilité stupide, se mettait en guerre contre moi. Vraiment, ce n'était pas d'une habile politique. C'était même un coup d'une imprudence stupéfiante. Il se mettait mal avec moi qui connaissais ses secrets et qui pouvait le perdre d'un seul mot. Je lui parlerai le lendemain. Je me couchai rapidement, mais, irrité et énervé, j'eus beaucoup de mal à m'endormir. Je recommençai 10 fois mon entretien avec le ministre. Je lui parlai avec une telle animation qu'à plusieurs reprises, incapable de rester au lit, je me relevai pour parcourir la chambre à grands pas et pour répéter à voix haute ma diatribe à l'adresse de Erner. Puis je fus pris d'un grand mal de tête. J'essayai de m'endormir en faisant tous mes efforts pour oublier mes agitantes préoccupations. Je ne les perdis pas en trouvant le sommeil. Mes songes se passèrent à chercher Erner et à le manquer. Je ne dormis que 3 heures à peine, et je me réveillai, sans courage, effrayé du poids de la terrible journée qui commençait. La veille, j'avais trop de choses à dire au premier ministre. Je me voyais lui parlant d'abondance et l'écrasant sous des discours irréfutables. Et maintenant, mal disposé et faible, je me demandais comment j'allais commencer ce décisif entretien, si je n'allais pas tout compromettre en m'y prenant mal, si, en lâchant tout de suite mon arme principale, je n'allais pas me démunir dangereusement et me trouver sans moyen de défense quand il s'agirait de sauver Tolberg. Pourtant, il fallait parler dès ce matin. À la vérité, j'avais eu un instant l'idée de ne rien dire pour le moment. C'était bien toujours cette politique d'attente ou de paresse que me conseillait ma lâcheté matinale. Mais tout de même, je ne pouvais pas ne pas m'être aperçu de la perquisition ou du cambriolage que Erner avait eu l'audace de faire pratiquer chez moi. Il fallait absolument que ce fût sur un ton d'irritation ou de digne reproche obtenir une explication. Malgré mon indécision et ma crainte, j'avais une certaine hâte de me retrouver en présence de Erner. C'était de la curiosité. C'était aussi une satisfaction d'avoir de justes griefs contre quelqu'un. Je descendis à mon cabinet d'assez bonne heure et j'attendis le ministre avec une émotion impatiente. La petite pièce claire où je travaillais était attenante à son bureau. La plupart du temps, la porte de communication restait ouverte. C'était le baron qui la fermait quand il recevait quelqu'un. Un moment, je guettais par la fenêtre, mais je réfléchis qu'il arrivait quelquefois à pied par le jardin. Alors, pour tromper l'ennui agacé de cette attente, je me mis à faire rapidement ma besogne quotidienne, à dépouiller les journaux français, que je trouvais chaque matin rangés sur ma table de travail par les soins du garçon de bureau. J'étais arrivé à faire ce travail assez vite. Au début, j'y mettais une conscience exagérée. C'était complet et confus. Maintenant, je me perdais moins dans les détails. Mon résumé était plus clair et plus court. Les premiers jours, j'éprouvais un véritable scrupule à ne pas mentionner certaines nouvelles, qui me paraissaient d'abord sans intérêt et qui, toujours à la réflexion, prenaient de l'importance. C'est cette timidité de caractère qui vous empêche de vider un tiroir rempli de vieilles lettres. On se dit toujours que précisément la lettre que l'on a jugée insignifiante et que l'on jette au panier sera justement par la suite celle que l'on regrettera d'avoir sacrifiée. J'avais achevé la lecture des journaux et je commençais à rédiger mon rapport quand j'entendis s'ouvrir la porte du cabinet à côté et le ministre dit quelques mots au garçon du bureau. C'était le moment. Ce cabinet à côté était effrayant comme un cabinet de dentiste où l'on va entrer d'un instant à l'autre. et c'était moi qui donnerais le signal. Irais-je trouver Erner tout de suite ou un peu plus tard? Soudain, sa voix se fit entendre. « Humbert !» Je passais dans son bureau. Il continuait à écrire sans lever la tête. Au bout d'un instant, il se renversa dans son fauteuil, me regarda gravement et me dit « On s'est servi vis-à-vis de vous d'un procédé inqualifiable. J'avais envoyé hier chez vous le chef de la police, car, ainsi que je vous l'ai dit hier, l'intérêt de l'État me commandait d'avoir des éclaircissements complets. Cet animal, je vous ai déjà dit que je n'étais servi que par des brutes, a pris sur lui de se livrer chez vous à une perquisition. Il m'a rapporté triomphalement un pli qu'il avait trouvé dans un petit coffret. Il l'avait ouvert et en avait pris connaissance. Ce qu'il contient est assez grave, puisqu'il émane de l'homme arrêté, qui prend des dispositions dernières, et qui donne ainsi la preuve que son crime était prémédité. Je vous rends ce papier, qui était déjà dans les mains du procureur, et je vous donne l'assurance que je ferai tout mon possible pour qu'il n'en soit pas fait état dans le procès. Je voulais vous dire également que j'avais beaucoup réfléchi depuis 12 heures à ce que je vous dois, et que les raisons que j'avais de vous vouloir du bien ont encore augmenté depuis la journée d'hier. Je ne pourrai pas l'oublier. Apportez-moi le résumé. » J'allai chercher le résumé sans répondre et sans penser à quoi que ce fût. Pendant qu'il parcourait sous mes yeux ma note analytique, je me dis qu'il fallait tout de même lui parler de Thalberg. « Monsieur le ministre, vous pensez bien qu'en faisant ce que j'ai fait hier, j'ai agi sans arrière-pensée, et que je ne cherchais pas à obtenir une récompense. Cependant, il s'est passé cette chose effroyable que mon acte a causé la perte d'un homme que j'aime beaucoup. Je sais très bien qu'il vous serait difficile d'arracher cet homme à la rigueur des lois, mais je pense cependant avoir acquis le droit d'intercéder en sa faveur. « À l'heure qu'il est, » me répondit Erner, « il m'est impossible de faire quoi que ce soit. Il est entre les mains de la justice, et la justice ne le lâchera pas. Mais je verrai s'il est en mon pouvoir de concilier la nécessité politique d'un châtiment et le désir que j'ai de vous être agréable. Terminez-moi ce résumé. Je vous reverrai avant mon départ. » Il m'accompagna jusqu'à ma porte, qu'il referma, ayant probablement du monde à recevoir. Resté seul, je me mis à repasser dans mon esprit tout ce qu'il m'avait dit. J'avais d'abord eu une impression de contentement en voyant que l'entretien ne prenait pas une tournure hostile. Ce n'est pas que je redoute les attrapages, mais je m'y sens inférieur. Je les conduis mal, sans aucune progression. Je lâche mes arguments principaux, et si, même sans être réfuté, ils ne produisent pas sur l'adversaire tout l'effet que j'attendais, je me sens tout à coup comme un soldat désarmé qui a brûlé toute sa poudre. J'étais donc assez heureux de cet entretien pacifique et qui semblait tout de concession. Mais ceci posé, et en y réfléchissant, je ne pouvais me dissimuler que j'avais été roulé. Il eût fallu ne pas connaître le ministre pour croire un instant que cette perquisition s'était faite, comme il le disait, sans son aveu. Je savais fort bien qu'il n'était jamais arrêté dans ses projets par la crainte de mécontenter les gens. Son système, je m'en étais déjà aperçu, était d'agir d'abord et de s'excuser après. Il était évident qu'il cherchait à me ménager à cause du secret dont j'étais le détenteur. Je n'avais aucune confiance dans les assurances qu'il m'avait données au sujet de Thalberg. Il avait évité soigneusement les promesses formelles. Il m'avait parlé de cette affaire avec une prudence très habile, de façon à me laisser le droit d'espérer sans prendre aucune espèce d'engagement. Cependant, il m'avait laissé voir assez clairement le besoin qu'il avait de me ménager. Mais si la connaissance de son secret m'était utile comme une menace, je me demandais avec un peu d'effroi comment il faudrait m'y prendre si j'avais besoin tout à coup de me servir de cette arme. À qui devrais-je m'adresser si l'attitude du ministre m'obligeait à le trahir? L'idée de me trouver subitement en lumière m'effrayait beaucoup. Je ne suis pas dénuée d'ambition, et c'était sans appréhension que, dans mes rêves de gloire, je me voyais arriver aux plus grands honneurs. Mais alors j'y arrivais tout doucement, paisiblement, par la force de mon mérite, et non brusquement par la volonté soudaine du hasard. Chapitre 21. Je résolus, en attendant, de demander au ministre la permission d'aller voir Tolberg en sa prison. La combinaison à laquelle j'avais songé tout d'abord, et qui consistait à obtenir l'accès de cette prison par l'intermédiaire de l'officier de garde, me parut à la réflexion trop aléatoire. Non, le mieux était de profiter des bonnes dispositions apparentes de Herner et de m'adresser carrément à lui. Je terminai rapidement mon résumé et je frappai à sa porte. Il était seul dans son bureau. Vraiment, je m'illusionnais beaucoup quand je m'imaginais dominer cet homme, parce que le hasard m'avait mis en possession de son secret. Jamais je ne serais maître de lui. Je l'abordais toujours avec la même timidité craintive. Je dus faire, comme à l'ordinaire, un grand effort pour entamer la conversation. C'est à peine si j'entendais les premières paroles que je lui disais. Une fois que j'étais lancé, mon ton s'affermissait un peu. Monsieur le ministre. Il me semblait que lorsque je lui disais « Monsieur le ministre », il avait l'air de penser « Allons, qu'est-ce qu'il a encore ?» L'idée d'être un importun, que l'on tolère par obligeance ou par politesse, m'a toujours horriblement gêné. Monsieur le ministre, j'ai à vous demander une faveur. J'essayais, par la façon dont je prononçais le mot « faveur », avec une certaine fermeté, d'indiquer que je n'étais pas un solliciteur, que cette faveur était presque un droit, et que ce n'était que par politesse que je consentais à employer cette expression. Mais quand j'y réfléchis, je crois que ces nuances n'étaient perceptibles que pour moi-même, et qu'elles eussent échappé au plus fin des auditeurs. Je ne veux pas vous cacher les liens d'amitié qui m'unissent à Henri de Tolberg. Vous pouvez vous imaginer la peine que j'ai éprouvée quand j'ai appris son arrestation. Je vous prie de m'autoriser à aller le voir dans sa prison. Avant de vous accorder cette permission, me dit-il après un instant de silence, je suis obligé de vous demander si cette visite est une simple manifestation d'amitié, ou bien si vous avez quelques communications spéciales à lui faire. Dans le premier cas, si c'est une visite purement amicale, je vous demanderai de bien vouloir la journée et la remettre à 48 heures, afin que le juge ait terminé sa première enquête. Vous savez qu'il est seul maître d'accorder des permis de visite, et je ne voudrais pas empiéter sur ses attributions. D'ici 2 jours, je pourrai, sans avoir l'air de venir troubler de mon autorité l'instruction de cette affaire, lui demander une carte d'accès auprès du détenu. Maintenant, s'il s'agit d'une communication urgente au comte de Tolberg, c'est une autre affaire. Vous comprendrez que je ne puis pas vous laisser aller auprès de lui sans savoir en quoi consiste cette communication. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, j'ai dans cette affaire politique, publique, le devoir de tout savoir. Je n'éprouve aucun embarras, monsieur le ministre, à vous exposer ce que je compte dire au comte de Tolberg. Je veux qu'il sache à quoi s'en tenir sur mon rôle dans cette affaire. Je veux qu'il sache que c'est moi qui l'ai trahi. Mais je lui dirai pourquoi. C'est en somme une confession que je veux lui faire. Je suis coupable envers lui. Je veux qu'il le sache et qu'il sache dans quelle mesure j'ai pu l'être. Je serai très soulagée quand je lui aurai dit cela. Humbert ! Humbert ! Me dit le baron avec un accent familier et presque affectueux. Quel garçon compliqué vous faites ! À quoi cela servira-t-il que vous alliez lui raconter cela ? Il ne saura jamais que s'il a été arrêté, c'est à la suite des révélations que vous m'avez faites. Vous ne l'avez pas trahi pour le trahir. Vous avez fait votre devoir en me prévenant du péril qui me menaçait. Mais vous ne saviez pas que c'était sur lui que ça retomberait. Vous n'avez rien à vous reprocher dans cette affaire-là. Il est absurde d'aller lui faire cette confession. En lui disant que le coup est venu de vous, vous allez l'affliger davantage. D'autre part, moi j'ai un intérêt politique sérieux à ce que ces gens-là et tout le monde croient que ma police a tout découvert. Nous savons à quoi nous en tenir, nous, sur l'imbécilité de ces limiers. Mais je ne suis pas fâchée de leur donner ainsi un peu de prestige et de laisser croire au peuple et aux fauteurs de troubles que le gouvernement est bien gardé. Ah, mon ami, vous voulez vous soulager? Vous ne pouvez pas vivre avec des remords? Savez-vous qui vous me rappelez? Vous me rappelez ce pauvre roi que nous avons connu. Il aurait été un profond politique s'il avait eu un peu plus de force d'âme. Mais il ne pouvait pas vivre avec un souci. Il ne faut pas être aussi douillé que ça pour sa tranquillité d'esprit. On vit très bien avec des soucis. Le tout est d'en prendre l'habitude. Que d'initiative et de temps on laisse perdre quand on a peur des soucis et qu'on cherche à les éviter. Je quittai le baron de Herner en me disant, résigné et presque satisfait, que je n'étais qu'un enfant auprès de lui. Je me sentais brisé et un peu lâche. J'avais depuis la veille trop discuté avec moi-même. Je sentais le besoin de faire en moi un peu de trêve. La pensée que j'avais trahi Tolberg, qu'il était en prison, qu'il serait condamné et qu'il mourrait peut-être, cette pensée affreuse était comme endormie. Je me disais aussi pour le moment, en suivant docilement l'idée du ministre, qu'il valait mieux ne rien dire à Tolberg et ne pas l'affliger du récit de ma trahison. En somme, Herner me l'avait clairement expliqué. Son intérêt n'était pas de dire à Tolberg que c'était moi qui l'avais dénoncé. Je pensais alors à lire le pli que m'avait confié Tolberg et qui avait passé par les mains du chef de la police. Il ne contenait, heureusement, que des choses insignifiantes, l'indication de quelques sommes d'argent à recouvrer, les adresses où il fallait les faire parvenir. Il me disait aussi de remettre à Bertha quelques objets, des bagues et des chaînes d'or. Rien ne précisait, heureusement, les relations du jeune homme et de la jeune femme. Pourtant, il fallait aller la voir. C'était pour moi une terrible épreuve. J'allais la voir, moi, la cause de son malheur. Quelle figure allais-je faire auprès d'elle? Mais puisqu'il le fallait, il le fallait, comme dit l'autre. Je me rendis chez elle après déjeuner et je la trouvai beaucoup plus courageuse que je n'aurais pensé. Tolberg, je ne sais comment, lui avait fait parvenir une lettre où il lui racontait en peu de mots qu'il était pris. Mais il ne paraissait pas découragé. Que pouvait-il espérer, grand Dieu? Et je reconnus chez Bertha une confiance qui me fit mal, cette folle confiance que veulent avoir malgré tout ceux dont le malheur est irrémédiable. Enfin, Tolberg serait très probablement condamné à mort, et si je réussissais à obtenir sa grâce, il ne s'en tirerait pas à moins d'une détention perpétuelle. Lui et Bertha seraient séparés pour toujours. Il ne semblait s'en douter ni l'un ni l'autre. Et c'était moi qui étais cause de tout cela. Cette pensée que je chassais continuellement rentrait toujours en moi au bout de quelque temps, et j'avais toujours, en la retrouvant, la même impression de détresse. Oh, comme j'aurais été soulagée si j'avais pu faire ma confession à Bertha, me faire maudire par elle. Je n'avais pas l'énergie de mon maître, le baron de Herner, cette tranquillité souveraine avec laquelle il vivait en plein mensonge. Il était aussi confortablement installé dans sa puissance royale que si elle n'eût pas reposé sur une duperie. Pourtant, cette fiction aurait un terme. D'ici 2, 3 ou 6 mois, il faudrait agir. Mais Herner était de ceux qui emploient toute leur force à ne songer qu'au présent. Et moi, La confiance de Bertha dans les événements me désespérait. Je ne me consolais pas en constatant en elle cet état d'esprit. Au contraire, il redoublait ma détresse, car je voyais à quel point ses espérances étaient précaires. Elle me dit que Tolberg avait déjà fait choix d'un avocat, un de leurs amis du barreau de Schönbourg, un jeune homme très écouté et très avantageusement connu dans le parti libéral. On connaissait assez son dévouement pour savoir qu'il plaiderait le procès de Tolberg et ne chercherait pas à faire une manifestation politique, utile sans doute pour la propagande du parti, mais qui ne manquerait pas d'être funeste à notre malheureux ami. J'allais la quitter, et je finissais par être un peu rassurée malgré moi, gagnée par son besoin d'optimisme et par sa vaillance. Quand elle me parla du comte de Ehrenstein, leur ami, et je vis avec désespoir qu'un des grands événements de sa confiance était que ce comte de Ehrenstein intercéderait auprès du roi. Ainsi donc, c'était dans le roi que cette pauvre femme espérait. « J'ai écrit, me dit-elle, au comte de Ehrenstein. Malheureusement, elle ne doit pas être ici en ce moment, car je n'ai reçu aucune réponse à une lettre que je lui ai envoyée il y a 5 ou 6 jours et qui a dû le suivre en voyage. » À ce moment, il me vint une idée que je communiquais à Bertha. Je pourrais peut-être, par une personne que je connaissais, savoir à peu près où se trouvait Ehrenstein. Le comte de Ehrenstein était parti avec la sœur de Madame de Lindstein. Peut-être la maîtresse du roi connaissait-elle son adresse actuelle. Je résolus d'aller la voir dès le lendemain. J'avais pensé tout à coup que si la conduite de Erner me forçait à manger le morceau, c'était au comte de Ehrenstein, à l'ami du roi défunt, que j'irais d'abord tout raconter. Et cet homme, qui m'avait paru toujours intelligent et réfléchi, me donnerait certainement le meilleur conseil.